Je compte jusqu'à trois, soyez prêts, une, deux, trois. Mesdames et messieurs, bonjour. Voilà, nous sommes à l'Institut français de Kinshasa, sous vos applaudissements, l'émission Okapi Service, à l'occasion du premier salon de l'étudiant. Merci chers participants pour vos applaudissements. Merci, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Okapi Service en direct de l'Institut français de Kinshasa. Aujourd'hui, nous allons parler de secteurs qui recrutent en République démocratique du Congo et comment construire son employabilité. Voilà, ce sont là les deux thèmes de ce magazine de la vie au quotidien. Bob Landou est à la technique, Tati Mapoukou assure la réalisation de cette émission sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Bienvenue à tous. Et excellente condition d'écoute du magazine Okapi Service. Sous vos applaudissements. Voilà. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien, en direct de l'Institut français de Kinshasa, à l'occasion du Salon de l'étudiant qu'organise Campus France. Alors, quels sont les secteurs qui recrutent en RDC? C'est le premier thème de cette émission. Et puis, dans la deuxième partie, nous allons parler de comment construire son employabilité. Eh bien, quels sont les secteurs qui recrutent en République démocratique du Congo? Vous savez, trouver un emploi en RDC n'est pas du tout aisé. Le chômage est souvent la règle, l'emploi l'exception. L'État congolais n'engage presque pas. Les offres d'emploi qui sont publiées proviennent souvent des ONG internationales ainsi que d'autres entreprises. Certains jeunes sont convaincus que la politique est devenue presque le principal secteur pourvoyeur d'emploi bien rémunéré en RDC. Alors, quels sont les secteurs qui recrutent les jeunes qui étudient à l'étranger et qui reviennent au pays? Quels sont les débouchés qui peuvent s'offrir à eux? On en parle dans cette émission à l'occasion de la première édition du salon étudiant qu'organise l'ambassade de France à l'Institut français de Kinshasa. Alors, sans plus tarder, nous allons accueillir nos invités. Nous avons sur ce plateau Laurent Clément, chargé des missions et études supérieures à l'ambassade de France. Bonjour Laurent.
Bonjour Jody.
Bien, nous avons également sur ce podium, disons sur ce plateau, David Lemaire. Il est directeur commercial de la société financière d'assurance. Bonjour,
bonjour
David. Bienvenue dans cette émission. Laurent, la première question est de savoir, pouvez-vous d'abord nous présenter le salon de l'étudiant? Pourquoi Campus France organise cet événement?
Alors oui, effectivement, ce salon étudiant, comme vous l'avez bien dit, est la première édition des salons étudiants sous ce format. Donc pourquoi un salon étudiant? Bien entendu, c'est pour répondre à un besoin double. Venant évidemment des étudiants. Les étudiants ont besoin de connaître, voilà, vous savez qu'on est parfois face à une jeunesse qui est avec des désillusions sur ses possibilités d'emploi en RDC, et elle doit prendre conscience que non, il y a des possibilités d'emploi en RDC, et il y a des besoins autant dans le secteur privé que dans le secteur public. Donc ça, c'est bien entendu pour répondre à ce besoin des étudiants d'avoir face à eux des interlocuteurs professionnels pour pouvoir leur poser des questions, leur montrer leurs inquiétudes sur ces secteurs. Et bien entendu aussi, on s'est rendu compte, c'est pour répondre aux besoins à la fois du monde professionnel, parce que le monde professionnel a besoin d'avoir cette visibilité auprès des jeunes, montrer que oui, chez eux, ça recrute, ils ont besoin d'avoir de jeunes Congolais motivés, compétents et formés pour pouvoir grossir leurs équipes et apporter une nouvelle énergie.
Eh bien, tout à l'heure, il y a eu des échanges avec les étudiants. Comment ça s'est passé? Comment était le programme? Quelles sont les activités que vous avez eu organisées avec eux?
Ah oui, effectivement. Donc le programme de cette journée se faisait de 10h à 16h. Elle a commencé par une ouverture officielle en présence de son Excellence Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Monsieur Thomas Louaka. En présence de Monsieur l'ambassadeur de France, Monsieur François Pujola, et en présence de notre parrain de la communauté France Alumni, Professeur Kojon Dukuma. Donc effectivement, le programme de cette journée se faisait de 10h à 16h, donc avec cette ouverture, suivie de 11h à 12h de tables rondes simultanées. Donc nous avions quatre tables rondes, la banque et assurance étaient représentées, le secteur humanitaire, le secteur de l'hôtellerie-restauration et le secteur médical. Donc pendant cette heure de table ronde qui était simultanée et qui était filmée, il faut savoir qu'elles ont été retransmises en direct sur les pages Facebook liées à l'Institut français de Kinshasa. Nous avons pu aborder ces questions que se posent tous ces jeunes ici, ça veut dire quel métier faire en RDC, quel métier recrute, quelle formation suivre, quelles possibilités d'évolution, et ils ont eu donc ces professionnels face à eux pendant une heure pour pouvoir échanger avec eux et leur poser des questions. Et actuellement, donc bien entendu, on remercie d'ailleurs l'équipe Radio Okapi qui est là pour présenter son émission, nous avons aussi des conseils d'orientation. Donc nous avons 5 conseillers aujourd'hui qui sont là pour les jeunes étudiants afin de les orienter sur les filières qui existent et comment ils vont pouvoir orienter leur carrière professionnelle et leur projet d'études. Bien entendu, ce projet de conseil d'orientation sera amené à être prolongé le reste de l'année durant l'ensemble de la campagne Campus France qui commencera pour la campagne 2020-2021 le 1er novembre de cette année.
D'accord. Alors, j'ai à ma gauche David Lemaire, qui est le directeur commercial de la Société financière d'assurance. Bon, encore une fois, bonjour David.
Bonjour.
Voilà. Alors, la première question est de savoir, pouvez-vous nous parler brièvement de votre structure, de votre milieu professionnel?
Alors, la Société financière d'assurance est une compagnie d'assurance donc qui fournit des services dans ce domaine, qui a été libéralisée récemment. Nous avons obtenu notre agrément l'année passée, en 2019, en mars 2019, l'agrément nous a été octroyé par le régulateur, l'ARCA, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances. Oui. Et donc, depuis, nous proposons des solutions d'assurance, que ce soit en responsabilité civile auto, en incendie, dans différents domaines, également comme la santé, les assurances transport, les tout risques chantiers et autres. En tant que compagnie d'assurance, nous sommes organisés avec différents départements, puisque c'est de ça dont nous devons parler aujourd'hui. Nous avons évidemment la direction qui fixe le cadre des orientations commerciales et autres. Et puis nous avons un premier département qui est très important dans une compagnie d'assurance, c'est le département technique. Il y a différents qualificatifs, mais nous on l'appelle département technique, qui est un département dans lequel nous allons préparer les contrats que nous allons vendre, que ce soit les assurances incendie, auto, transport, tourisme, chantier, toutes ces gammes de produits. Donc nous allons établir des canevas dans lesquels nous allons dire, voilà, nous couvrons telle limite en assurance incendie, nous allons couvrir les dommages corporels et matériels dans tel domaine, et ainsi de suite. Et lorsqu'un commercial vient voir le département technique, ils étudient ensemble la meilleure façon de proposer une solution adaptée à nos clients. Un deuxième département très important, c'est bien évidemment le département commercial. Un assureur reste une compagnie, et une compagnie, pour subsister, doit vendre, évidemment. Un troisième département, c'est le département des finances, car nous, les assureurs, nous sommes soumis à certaines obligations en termes de gestion de nos actifs, en termes de gestion de nos fonds. Donc, lorsque nous collectons des primes, nous devons créer des réserves, nous devons investir une partie de nos revenus, que ce soit dans l'immobilier ou autre, tout ça pour assurer la pérennité de la société et bien évidemment assumer nos engagements lorsque nos assurés vont venir nous déclarer des sinistres dans les domaines. Encore 2-3 départements simplement qui sont importants et qui intéressent un peu le thème d'aujourd'hui, ce sera également le département, même s'il porte mal son nom, il est très important, c'est le département sinistre. Donc, c'est-à-dire, c'est là où nous allons gérer les déclarations, que ce soit des accidents de la route, que ce soit des accidents corporels, que ce soit des incendies et autres. Nous avons également un département direction des ressources humaines, audit et département juridique. Voilà, principalement.
Alors, est-ce qu'on peut dire que dans le secteur des assurances, dans votre entreprise, par exemple, il y a des opportunités d'emploi pour les jeunes?
Bien entendu. C'est un nouveau domaine. En ce sens que ça vient d'être libéralisé, donc nous sommes 8 assureurs plus la SONAS. Il y a également plus d'une dizaine de courtiers en assurance qui sont des intermédiaires, donc qui vendent nos produits d'assurance. Donc bien évidemment, il y a un nouveau secteur qui a été libéralisé, ce qui fait qu'il y a une demande en termes de main-d'œuvre dans les différents domaines que j'ai cités. Mais également, il y a un point qui est assez important et sur lequel nous prêtons tous attention, tant les autorités que les acteurs du jeu, si vous me permettez, c'est qu'il y a l'aspect formation. qui d'ailleurs nous amène aujourd'hui. Parce qu'effectivement, tout à l'heure, nous parlions des exigences quand des sociétés, que ce soit des banques ou autres, rencontrent des candidats. On exige 10 ans, 15 ans d'expérience ou ce que vous voulez. Ben, dans l'assurance, c'est moins évident. Ça vient d'être libéralisé. Moi, je peux pas, lorsque je reçois un candidat oui. pour la technique, par exemple, ou un candidat commercial, lui dire, bon, ben, je veux que le candidat recruté doit avoir 5 ans d'expérience dans les assurances, par exemple. Donc, c'est plus délicat. Donc, il y a cet aspect formation Tout qui est fait. Très important également.
Non, moi, c'est Marc Frère, je suis le responsable.
Ah, Marc Frère, voilà. C'est plutôt Marc Frère qui est le General Manager à Pullman Hotel à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Nous parlons des secteurs qui recrutent en République démocratique du Congo. Vous êtes dans l'hôtellerie. Pouvez-vous d'abord nous parler de votre structure et de votre milieu professionnel et des opportunités d'emploi qu'il y a dans les secteurs de l'hôtellerie?
Très bien, merci. Alors, je suis bien le responsable de Pullman ici à Kinshasa, comme à Lubumbashi. Et nous sommes dans une activité où nous recrutons toujours. Nous sommes tout le temps en train de recruter. Ceci dit, c'est en fonction aussi de l'activité que nous recrutons. Donc nous recrutons pour des périodes très courtes, comme aussi pour des postes à plus long terme. Et pour le moment, comme nous sommes absolument impactés par cette crise du Covid, oui. Le recrutement est un peu plus faible que d'habitude. Mais bon, nous travaillons toujours avec beaucoup de monde, que ce soit surtout au niveau de serveurs, de restaurants, employés pour les banquets, valets de chambre, équipiers, voilà, un peu dans tous les secteurs. Après, pour des postes à plus long terme, nous sommes aussi demandeurs, très demandeurs, j'en parlais encore ce matin dans une table ronde, de middle management. Donc j'appelle le middle management tout ce qui est chef d'équipe, on disait en partie. Par exemple, au restaurant, un assistant d'un maître d'hôtel, un maître d'hôtel en réception, un chef d'équipe de réception ou un assistant en housekeeping, donc tout ce qui est le travail de la gouvernante dans les chambres. On a besoin de ces équipes, de ces superviseurs. On est tout le temps en train de rechercher des gens. On recherche plutôt des profils de leaders plutôt que des gens avec des grands diplômes. Ceci dit, toute personne qui viendrait avec un diplôme et une expérience à l'étranger, on est très demandeur aussi.
Ouais. Mais on ne voit pas souvent ces offres d'emploi être publiées.
Alors, il n'y a pas d'offres d'emploi.
Dans les réseaux sociaux ou bien.
Il n'y a pas d'offres d'emploi. Quand vous recherchez des extras ou des intérimaires, c'est le bouche à oreille qui fonctionne. C'est pas autre chose. Quand vous avez des postes, alors oui, nous on fait des annonces. Nous avons des plateformes sur Accor, dans le groupe Accor, qui sont utilisées par les membres du groupe, les employés du groupe, comme aussi par n'importe quelle personne qui ne travaille pas dans le groupe. Ils y ont accès. Et je peux vous dire d'ailleurs que nous avions une plateforme qui s'appelait Accor Jobs. Aujourd'hui, elle a été transformée, elle n'a plus ce nom-là. Mais nous avions, jusqu'à l'année passée, 5000 offres d'emploi en permanence sur cette plateforme, en permanence, dans le monde entier, naturellement, pas en RDC.
David Lemaire, une autre question de savoir, quelles sont les difficultés que vous rencontrez par rapport au recrutement des jeunes dans votre secteur?
Alors, une difficulté qui est normale, c'est simplement le manque de connaissance du monde de l'assurance. Donc, c'est-à-dire, et c'est d'ailleurs le même problème commercialement. On parle souvent de vulgarisation. Beaucoup de gens ne savent pas encore qu'il y a des acteurs, d'autres acteurs, différents assureurs, pardon. Maintenant, pour en revenir sur le recrutement, la difficulté qui n'en est pas une directement, c'est juste que quand on va identifier un candidat, que ce soit pour l'intégrer dans le service commercial ou dans le service technique ou dans la gestion des sinistres, mais on sait qu'on va devoir passer du temps à le former. Alors, on le fait avec plaisir, c'est une philosophie de travail chez nous, et on a intégré dans chaque recrutement qu'on fait un délai de plusieurs mois où on sait que voilà, on va devoir faire un cycle de 3 mois de RC Auto, un cycle de 3 mois de RC Exploitation, enfin voilà, tous différents programmes pour apprendre le métier. Ce qui, d'ailleurs, moi je me suis découvert une passion. Je prétends pas être un excellent formateur, mais j'adore former. C'est gai parce qu'on apprend, parce qu'on est utile. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est un nouveau domaine, c'est un nouveau métier, un nouveau domaine, pardon. Et il y a beaucoup à faire encore, même si beaucoup a déjà été fait. Et la formation est un élément extrêmement important.
Et quel peut être l'intérêt de recruter quelqu'un qui a fini sa formation universitaire en France ?
Vous savez, je vais vous donner un autre exemple. Moi-même, je travaillais en Belgique jusqu'il y a 5 ans. J'ai appris beaucoup plus en étant au Congo depuis 5 ans, même dans mon métier, parce que j'ai assuré beaucoup. Ce que je veux dire par là, c'est que partir à l'étranger, c'est déjà très intéressant. Aller en France, vous allez avoir des écoles de formation dans le domaine de l'assurance. Il faut savoir qu'en France, c'est minimum 380 000 personnes qui travaillent dans le monde de l'assurance. 380 000. Donc ça veut dire que c'est beaucoup plus répandu. Ce sont des marchés qui sont remplis d'agents, de courtiers, d'assureurs, des écoles avec plusieurs écoles avec plusieurs programmes. Donc effectivement, je pense que ça peut toujours être intéressant, effectivement, d'aller là-bas et de recruter des gens. Et je pense que deuxièmement, en tout cas c'est mon personnellement, le fait d'aller voir ce qui se passe un peu ailleurs que chez soi est toujours très enrichissant.
Bien, au Capi Service, en direct de l'Institut français de Kinshasa, on a besoin de questions dans l'émission, donc on ne peut pas fonctionner sans questions. Et y a-t-il des questions à adresser aux invités par rapport au secteur qui recrute en RDC ? Bien, très bien, il y a déjà deux personnes qui veulent s'exprimer au fond de la salle. Merci. Pouvez-vous me donner votre nom, pouvez-vous présenter et puis poser la question.
D'accord. Moi, c'est Gracia Chimanga. Ma question s'adresse directement à Monsieur Marc Lefrère, manager à Pullman Hotel. C'est que un étudiant qui a fini ses études en France et qui a une opportunité de travailler en France, mais l'étudiant se décide de revenir dans le pays pour travailler dans le domaine d'hôtellerie et restauration. Qu'est-ce que vous pouvez promettre ou quelle opportunité pouvez-vous offrir à ce jeune-là afin qu'une fois travaillant chez vous, la personne puisse se dire que ça en valait la peine? Parce que nous savons ici des personnes qui travaillent dans le domaine de l'hôtellerie et restauration, même dans de grands établissements, ne sont pas très bien payés. Alors, ces personnes préfèrent travailler, rester là-bas en France pour continuer à travailler plutôt que de revenir dans le pays. Chez vous, particulièrement à Pullman Hotel, qu'est-ce que vous offrez comme bénéfice à ces personnes qui reviennent dans le pays ou qui acceptent de revenir dans le pays pour travailler?
Bien, merci. Avant de répondre, on va accueillir une autre question, toujours au fond de la salle. Bonjour, monsieur.
Bonjour. Laurie Pinzi, question pour le manager général de Pullman. Nous parlons beaucoup de recrutement des gens qui ont étudié à l'étranger, mais je voudrais savoir également, vous êtes dans un secteur de l'hôtellerie et puis Pullman est un des leaders, qui fait partie de Accor Hotel, je pense. Comment est-ce que vous décririez la formation en hôtellerie ici en RDC? Et qu'est-ce que vous préconiseriez pour améliorer cela, pour arriver au standard de votre établissement? Merci.
Bien, merci. Marc Frère, vous avez la parole.
Merci pour les questions. Je vais répondre à la première question concernant le recrutement de quelqu'un qui aurait un diplôme en France d'hôtellerie. Et qu'est-ce qu'on aurait à lui offrir ici? Alors, un jeune diplômé... Mon premier conseil, c'est surtout qu'il acquiert une expérience à l'étranger et qu'il ne revienne pas dardard ici dans son pays. Ça ne veut pas dire qu'il doive travailler en France, il peut travailler n'importe où, mais surtout qu'il acquiert une expérience à l'étranger pour se construire une carrière. Parce que revenir ici, naturellement, il sera toujours le bienvenu. Et nous avons un manque cruel de ce que je vous disais tout à l'heure, de middle management. Et donc... il sera le bienvenu ici. Mais entre choisir quelqu'un qui a... prenons le cas de deux personnes qui sont congolais et qui ont les deux un diplôme d'hôtellerie où qu'ils soient. je donnerai toujours la priorité à celui qui a un parcours plus varié. Celui qui s'est limité à avoir son diplôme, à obtenir son diplôme et qui veut tout de suite revenir, il aura moins d'acquis. Donc c'est cette acquisition d'expérience qui est très importante et que nous allons favoriser. Après, ce que nous offrons aux personnes, c'est géré au cas par cas. Les salaires ici sont, au niveau des cadres, sont loin d'être mauvais. Même pour des Congolais, je peux vous assurer, sont l'équivalent, je dirais, qu'en France. Et j'ose le dire.
C'est autour de combien, si c'est pas un secret, est-ce qu'on peut avoir une
idée? Ça dépend du niveau des personnes que l'on a. Moi, je peux vous donner le cas de personnes qu'on a prises ici, qui sont même pas allées en France, hein, qu'on a formées ici dans les hôtels. Quand on est arrivé en 2015, le groupe Accor, quand on est arrivé en 2015, avait cet employé qui avait un salaire de $300. Quand il a quitté l'hôtel, il en avait $2000. Il était le gouverneur général. C'était un bon élément qui a voulu quitter, d'accord, mais il avait un salaire de $2000. Donc c'est quand même un salaire de cadre qui est très bon. Je dirais, en tout cas, en France, pour le même poste, on a plus ou moins le même salaire. J'avais d'autres personnes qui avaient des salaires plus élevés. J'avais des Congolais qui étaient qui aujourd'hui ne sont plus dans l'hôtel, mais qui avaient des salaires très très élevés. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais donc voilà, nous sommes réceptifs à avoir des gens qui ont des diplômes d'hôtellerie. Et qui ont surtout un profil, et c'est ça que nous cherchons, c'est le profil de la personne. Nous cherchons des gens qui seront capables, de par leur expérience, d'expliquer à des équipes comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire, comment faut-il réagir face à un client qui n'est pas content ou qui est content, comment respecter par exemple les normes d'hygiène qu'on a mises en place là pour le moment.
Oui.
Y a tout un tas de choses à savoir. Et quelqu'un qui n'a pas d'acquis n'aura pas l'autoconfiance suffisante pour pouvoir donner des ordres et manager une équipe. Et là, ce qu'on demande justement, c'est de l'acquis. Voilà. Quant à la seconde question, rappelez-moi un peu la question, s'il vous plaît. Je me suis un peu perdu dans le développement.
Tati, vous pouvez redonner le micro pour plus de précisions. Pouvez-vous vous rappeler votre question?
Je disais ceci. Est-ce qu'il est facile, par rapport aux standards de votre hôtel, de trouver du personnel qualifié ici en RDC? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous préconisez pour améliorer cela?
Alors, merci.
Merci. Nous avons effectivement une énorme carence d'expertise au niveau hôtelier. Nous essayons de travailler avec des écoles hôtelières locales. Mais le niveau, quand on arrive sur le terrain et qu'on remarque le niveau d'expertise, surtout au niveau du service, restauration, ce niveau est très faible, effectivement. Qu'est-ce que je recommanderais à quelqu'un qui a l'opportunité d'aller étudier ici, aller en France, construire une carrière à l'étranger et revenir? Je dirais, saisis ta chance. Ayez la possibilité d'avoir un diplôme et construisez votre carrière et puis revenez ici. Les portes sont grandes ouvertes. Sachant que l'hôtellerie va se développer ici. Nous avons actuellement le Pullman à Kinshasa et à Lubumbashi, comme je vous le disais. Mais on va aussi ouvrir trois nouveaux hôtels, dont un à Kinshasa, Lubumbashi et Kolwezi. Donc voilà,
il y a des opportunités.
Il va y avoir des opportunités à tous les coups.
D'accord.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien, on va donner la parole à Nathaniel Aller Sévigny. Il est membre du Forum des ONG internationales.
Oui, tout à fait.
Bonjour Nathaniel.
Bonjour, ça va bien?
Bien, ouais, vous pouvez...
Merci, je viens m'installer avec vous.
Installez-vous. Alors, parlez-nous brièvement de votre secteur, qu'est-ce que vous faites et de votre milieu professionnel, voilà.
Super, merci. Donc, je suis Nathaniel Aller Sévigny, je suis le chef de mission d'une ONG qui s'appelle MAGNA, c'est une ONG internationale médicale d'origine slovaque, et je suis aussi membre élu du comité exécutif du Forum des ONG internationales. On représente 115 ONG internationales, avec lesquels on travaille sur des thématiques très précises et tout ce qui est un peu plus commun. Le secteur humanitaire en RDC, c'est un secteur qui est très, très vaste. Donc déjà, c'est la première chose que je dois dire. Le secteur humanitaire comporte pratiquement tous les domaines de travail possibles et inimaginables. Et donc, c'est vraiment un secteur où, si ça vous intéresse, il faut y aller par conviction, par passion pour pouvoir y aller. Et finalement, les types d'emplois, comme j'ai dit, ils sont très, très, très variés. On peut avoir absolument de tout. Donc d'abord, il y a toute la partie qu'on peut appeler plus support, tout ce qui est administratif, financier, logistique et tous les emplois qui découlent. Mmh. On a des parties programmes, donc une partie très technique où là, on a besoin d'ingénieurs, de médecins, si ce sont des ONG de santé. Ça peut être de tout type, juristes, enseignants, etc., etc. Il y a aussi la gestion, le management comme tel, où là, on va avoir plus des profils en administration, en gestion de projet, MBA. Et tout aussi une partie de suivi-évaluation. Ce qui qualifie le domaine humanitaire, et je pense qu'il faut faire vraiment la distinction entre l'humanitaire et le développement, l'humanitaire, c'est des opérations, des programmes qui sont là pour sauver des vies. On parle d'urgence, il faut se déployer rapidement, soit...
dans des lieux où il y a des catastrophes, il y a des problèmes...
Exactement, suite à des crises, par exemple, ou suite à des situations si terribles, même si elles ne sont pas liées à une crise de sécurité, par exemple la malnutrition ou l'insécurité alimentaire, qui sont des fléaux ici, dans certaines zones de la RDC, non pas parce qu'il y a connu la guerre, mais pour d'autres problèmes, plus structurels, je pourrais dire, mais où, d'abord, il faut sauver des vies et se déployer. Mmh. Et donc, c'est vraiment ce genre de secteur où ce qu'on recherche, c'est de la flexibilité, des gens qui ne sont pas carrés, c'est-à-dire qui sont carrés au niveau du comportement, mais qui ne sont pas carrés dans la définition de tâche. Ah non, ça, je ne fais pas. C'était pas dans ma définition de tâche. Lorsqu'on doit sauver des vies, lorsqu'on doit trouver des solutions en quelques minutes ou en quelques heures face à des défis, il faut vraiment des gens qui sont investis et qui ont cette vision-là très large.
Et quels sont les métiers ou les profils que vous recherchez beaucoup plus dans l'humanitaire?
Donc en effet, des gens qui sont flexibles, des gens qui sont prêts à travailler en équipe et travailler dans un contexte multiculturel.
Il n'y a pas des domaines particuliers dans lesquels vous recherchez des candidats?
C'est un peu la complexité pour ma réponse. C'est-à-dire que, par exemple, les secteurs de l'humanitaire peuvent autant être l'éducation que la santé, que la nutrition, que les abris et articles ménagers essentiels, les AME. Et donc là, ça peut être des architectes, des médecins et tout ça. Et donc, c'est un peu complexe parce qu'on recherche de tout, finalement.
Oui.
C'est surtout dans le mode d'opération qui est vraiment très particulier. Mais évidemment, toute la partie logistique et support est très importante, et ça, c'est dans toutes les organisations. Et toutes les parties techniques, donc j'ai parlé ingénieurs, médecins, et des gestionnaires.
Et pourquoi vous rencontrez des difficultés à recruter?
La difficulté des recrutements vient de différents niveaux, et je pense que une des choses, en effet, j'en ai parlé un peu dans ce qu'on recherchait comme profil, mais parfois c'est la difficulté d'avoir des gens qui sont prêts à justement vivre dans ce type de domaine-là où il y a de l'urgence, il faut de la mobilité, il faut pouvoir partir, répondre à des besoins et tout ça. Et ensuite, il y a une partie aussi parfois qui est un peu complexe, plus liée à l'expérience. Donc, en général, on pour des postes de haut niveau, évidemment, on espère de l'expérience dans le secteur, ce qui est assez important. Et pour des postes plus d'entrée, là, on demande pas de l'expérience nécessairement en ONG internationale, mais des expériences qui prouvent que vous avez les compétences qu'on recherche dans l'emploi. Et ça, parfois, c'est un peu complexe. Et évidemment, il y a des procédures autant légales ici en RDC qu'on doit respecter, qui peuvent des fois être un peu lourdes pour des réponses humanitaires. Donc, par exemple, il faut avoir le visa de l'ONEM, il faut afficher pendant un minimum de jours.
Oui.
Et lorsqu'il y a une crise humanitaire, respecter ce nombre de jours-là, parfois ça devient difficile, parce que le temps qu'on respecte la loi pour afficher, les besoins humanitaires ne sont pas adressés.
Oui, ça va pas attendre.
Voilà, donc il y a un peu de tout ça qui est là. Mais c'est un secteur, en effet, où il y a beaucoup, beaucoup de besoins. On parle, dans le plan humanitaire, on parle de 25,6 millions de personnes en situation qui ont besoin d'assistance humanitaire au cours de l'année 2020. Et en financement, on a reçu seulement 26% du financement en date du 19 octobre pour répondre à ces besoins. Et ça aussi, c'est un autre problème. C'est une question de fonds. C'est une question aussi de tout ce qu'on est capable de mobiliser. Et donc, avec très peu de fonds, parfois il faut faire des miracles littéralement.
Bien, je me retourne vers David Lemaire, directeur commercial de la société financière d'assurance. Il y a des difficultés, vous ne trouvez pas assez de candidats dans les secteurs ici sur place. Or, il y a un besoin de formation. Quelles sont les solutions?
Les solutions en ce qui nous concerne, nous sommes en train de parler avec différents acteurs. J'étais en contact aujourd'hui grâce justement à cet événement que l'Institut a organisé avec une personne en charge à l'école supérieure de management de Kinshasa, qui a une branche assurance. Ça faisait longtemps que je voulais les rencontrer parce que voilà, moi je suis disponible pour prodiguer des formations, pour expliquer. Ça va prendre du temps, c'est pour répondre à votre question, ça va prendre du temps, on va tous se retrousser les manches, mais on va y arriver et on va contribuer chacun à, aussi avec les autorités à avancer dans la formation, ils sont là pour nous aider.
Mais est-ce que vous offrez par exemple des opportunités de stage aux étudiants qui terminent dans cette école-là pour venir passer quelques temps chez vous?
Alors, on a une année d'existence. Donc une start-up d'une certaine façon, si vous me permettez. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. On a fait un travail incroyable à la SFA dont on n'est pas peu fier. Les choses se mettent en place et effectivement, on envisage de commencer à accueillir des stagiaires. Mais l'intérêt d'accueillir un stagiaire, c'est bon, il faut qu'il en retire quelque chose.
Tout à fait.
Donc il faut pouvoir aussi avoir le temps de le prendre en charge, de le former, de lui expliquer, parce qu'on est dans un métier qui est très théorique également, très
d'accord,
technique.
On va recueillir d'autres questions. Y a-t-il d'autres questions? Nathaniel Allaire est là, il est dans le domaine de l'humanitaire. Nous avons Marc Frère qui est dans l'hôtellerie, il est encore là avec nous. Des questions? Et David Lemaire dans le domaine des assurances, des questions? Ne soyez pas timide, on attend des questions. Y a-t-il des questions dans la salle qui prend la parole? Ah, je vous dis, l'émission fonctionne avec des questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, aïe, aïe, aïe. Donc, on ne pourra pas évoluer. Peut-être qu'il n'y a pas de candidats qui veulent poser des questions. Voilà, il y a un monsieur derrière. Les dames ne parlent pas encore beaucoup. Je me demande qu'est-ce qui se passe.
Bonjour, moi c'est Kevin Mouteb. J'allais poser la question
à qui?
À la société d'assurance.
D'accord.
Enfin, j'allais juste savoir quelles difficultés vous rencontrez plus souvent quand vous recrutez, par exemple, de jeunes. Quand vous recrutez plus de jeunes, en fait. Quand vous recrutez de jeunes, quelles difficultés vous trouvez plus à Kinshasa ici?
D'accord. Il y a une autre question ou c'est la seule?
Non, c'est la seule.
La seule question, d'accord. Voilà, Tati, ici devant, il y a une question.
Qui a levé la main?
Elle est là.
C'est vous qui avez levé la main?
Ici.
Ah, d'accord. Okay.
Je suis Keran Boyo. Ma question s'adresse au monsieur pour les ONG, monsieur Nathaniel.
Okay.
En fait, je voudrais savoir, est-ce que vous avez parlé de manque d'expérience professionnelle, c'est ce qui fait un peu, qui cause la difficulté de recrutement de jeunes. Maintenant, Quelle est la solution que vous proposez à nous jeunes, par exemple moi, je veux faire mes études en France, bien que je serai là-bas, si j'ai ce souci de revenir ici et que je n'ai pas acquis une expérience professionnelle, quelle est la solution que vous pouvez me proposer?
Bien, merci. D'autres questions? Oui, là, Tati, il y a une question là-bas.
Bonjour.
Bonjour,
je m'appelle Gabriel Joy. J'ai une question pour le directeur, je pense, de Pullman Hotel.
Oui, monsieur Marc Lefrère.
Oui, qui disait Marc que Frère, voilà. C'est bien d'avoir une expérience professionnelle à l'étranger avant de revenir ici. Alors, notre problème aussi ici, c'est que lorsque nous revenons, parce que moi j'ai étudié à l'étranger, si vous n'avez pas de connexion, vous ne pouvez pas trouver du boulot.
C'est quoi la connexion?
La connexion, c'est avoir une relation. Donc, quelqu'un qui vous branche, en quelque sorte. Ça, c'est le thème qui noie. Il faut être branché. Alors, quand vous annoncez, vous, par exemple, vous annoncez qu'il y a de l'emploi à Pullman Hotel, nous pouvons venir avec les CV et tout ce que vous voulez,
oui.
Mais personne ne vous appelle. Vous n'avez jamais un suivi. Alors, ma question, c'est comment est-ce que nous pouvons remédier à cette situation où vous demandez de l'emploi et personne ne vous répond jamais?
D'accord,
parce
merci.
Parce que moi, je l'ai fait. Oui. Je suis venue de l'étranger.
Est-ce que vous avez déjà connu une telle situation?
Si, dans okay. plusieurs hôtels de la place. Je suis venue de l'étranger. J'ai étudié à l'étranger, je suis revenue.
Et vous avez postulé pour quel poste?
J'ai postulé à Pullman. Ils avaient un poste de ressources humaines, adjointe aux ressources humaines.
Oui.
J'ai postulé et à un autre hôtel qui est à côté. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu de nouvelles. Et au point où je suis tellement découragée, je préfère repartir d'où je viens. Parce que je ne trouve absolument pas de boulot ici.
Et vous êtes revenue au pays depuis combien de temps?
Ça fait 2 ans.
2 ans.
Oui.
D'accord. Les invités vont répondre tout à l'heure à vos questions. Y a-t-il d'autres préoccupations dans la salle par rapport à l'emploi? Bien. On va d'abord répondre aux questions qui ont été posées. David Lemaire, vous avez la parole.
Pour les difficultés en termes de recrutement, des difficultés qu'on rencontre chez les jeunes, en fait, il y en a pas vraiment. C'est clair qu'il y a un souci au niveau de l'expérience, de l'apprentissage du monde de l'assurance, des produits de l'incendie. Parce qu'il faut comprendre, c'est que en tant qu'assureur, même en tant que courtier, vous vendez un service dont on n'est même pas certain qu'il va se produire. C'est le principe même de l'assurance. C'est qu'on assure un événement dont c'est là, qu'on appelle l'aléa, c'est-à-dire qui est incertain. Incertain parce qu'on ne sait pas s'il va se produire et quand. Donc ce que je veux dire par là, c'est que on doit être en mesure de nous avons une mission de conseil, si vous voulez. Donc c'est-à-dire que si vous venez me voir, pour vous donner un exemple simple, vous avez des entrepôts près du fleuve Congo. Et vous me dites, moi je veux assurer mes entrepôts, et je veux assurer le stock. Et je vous fais une proposition d'assurance incendie, où je n'inclus pas les dégâts dus aux inondations, ou aux débordements de fleuves. Et puis il y a une grande pluie, il y a des intempéries, une tempête, ce que vous voulez, et tout votre stock est inondé. Mais qu'est-ce que vous allez me dire? Si moi je me suis trompé, que je vous ai pas dit, tiens, au fait, vous savez, nous avons différentes options dans nos polices, et on peut couvrir l'inondation. Vous allez me répondre, mais pourquoi ne pas me l'avoir dit? Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut connaître le métier. Et la difficulté, c'est ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure, on en tient compte et on sait que quand on recrute quelqu'un, jusqu'à présent on n'a jamais eu à regretter un quelconque recrutement à la SFA, mais on sait que ça va prendre du temps. Donc on sait qu'on va devoir, ce que je disais tout à l'heure,
mais ce qui arrive souvent, plusieurs entreprises hésitent de recruter les jeunes, par exemple, parce qu'ils n'ont pas encore assez d'expérience. Et dans les offres, on demande toujours, bon, il faut avoir au moins 5 ans d'expérience. Et souvent, les jeunes n'en ont pas.
Tout à fait. Mais
ils sont déboussolés, quoi.
Oui, mais en même temps, là, vous devez apprendre un métier sur le point de vue théorique. Et effectivement, on préfère... C'est mieux d'avoir des gens qui ont de l'expérience en assurance. C'est pas évident pour le moment. Et on est tous là, ce que je disais tout à l'heure, pour remédier à ça. Et on va y arriver. Maintenant, ça va se faire petit à petit. Il est sûr que quand on recrute quelqu'un, avoir un peu d'expérience, même dans un autre domaine, c'est toujours un plus. On va pas se mentir. Maintenant, après, je vais pas m'aventurer plus loin. C'est pas mon domaine. Je m'occupe pas des recrutements directement. Oui. Mais évidemment, on va pas se mentir. Maintenant, de l'autre côté, on a aussi recruté, moi j'ai des super gars dans mon service commercial, c'est leur premier job, donc je suis un peu partagé sur la question, parce que de l'autre, prendre quelqu'un qui sort de l'UNIF et qu'on peut former justement à une méthode de travail, en plus de le former à un apprentissage d'un domaine, ça peut être aussi avantageux, et un an après je ne le regrette pas, au contraire, pourtant ils n'avaient pas d'expérience à part des jobs d'étudiants ou des trucs comme ça.
Ouais.
Voilà.
Bien, Nathaniel, vous avez la parole.
Merci pour la parole. Alors, c'est une question qui est très intéressante et c'est une question aussi dont la base est très paradoxale. Comment acquérir de l'expérience pour qu'on me recrute dans des emplois qui demandent de l'expérience si je suis jamais recruté? Bon, ça, dans tous les pays du monde, on a toujours la même question. Et la première des choses qui est importante, je pense, c'est aussi que vous cibliez le poste que vous voulez. Si vous appliquez sur un poste qui demande 10 années d'expérience professionnelle, c'est une perte de temps. Vous devez aussi être réaliste par rapport à où est-ce qu'on doit commencer lorsqu'on cherche un emploi. La deuxième des choses, Je pense que c'est important de comprendre que dans le contexte de la RDC et dans le contexte peu importe où, oui. Vous avez la responsabilité de la créer, votre expérience. Le travail, par exemple, au sein d'organismes associatifs, alors que vous allez être à l'université, vous impliquez dans des comités, vous impliquez dans d'autres organisations, le bénévolat que vous allez faire. Ça, c'est de l'expérience que vous êtes en train de créer. Vous
développez. Ça permet déjà de construire l'employabilité.
Exactement. Et ça, c'est majeur. Vous avez la responsabilité de la créer, votre expérience, d'aller la chercher, d'aller vous impliquer. Évidemment, il y a les stages. Mais les stages, c'est aussi compliqué qu'un emploi. Dans une organisation, peut-être qu'il y aura 5 stages dans une année. Mais 5 stages pour la population de Kinshasa, là, ça va être compliqué. Et ça, je comprends. Et donc, il faut chercher au-delà de ça. Ensuite, chercher un emploi, c'est un emploi à temps plein. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête lorsqu'on cherche un emploi. Vous allez devoir refaire votre CV pour chacun des emplois que vous allez faire. Pour chacune des organisations pour lesquelles vous allez déposer, vous devez faire une recherche. Ah, quelles sont les valeurs de l'organisation? Quelles sont les actions? Où est-ce qu'elle travaille? La lettre de présentation. Si vous faites une lettre que vous avez pris comme ça, un modèle, vous changez seulement le nom et tout ça, vous venez déjà de perdre une opportunité. Votre lettre, elle doit être vraie, vous devez la travailler, ça prend des heures. Vous la faites lire à des amis, vous les faites lire à des gens qui travaillent dans le domaine et vous cherchez. Lorsqu'on, pour un seul emploi d'assistant logisticien, on reçoit, par exemple, à Magna, qui est une organisation, on est très fiers et tout ça, mais c'est pas l'organisation comme une agence des Nations Unies où c'est très grand. Imaginez comment ils en reçoivent. Si j'ai 500 candidatures pour un poste d'assistant logisticien dans un seul de mes projets, eh bien, évidemment, toutes les lettres qui sont pareilles et tout ça et où on voit pas la qualité, vous allez être submergé, vous allez être mis de côté.
Et ça, on met de côté tout de suite.
Parce que vous perdez. Donc, il faut vraiment à chaque fois que vous dites, mon papier, là, mon CV et ma lettre, quand ils le voient, ils vont dire, OK, ça, c'est intéressant, je sens que ça correspond aux compétences. Peut-être que l'expérience un peu moins, mais, les compétences sont là et tout ça. Et voilà. C'est pas des formules magiques. Il y en a pas de formules magiques. On est dans un pays où c'est le taux d'employabilité est très bas. Et ça, il y aura pas de miracle du jour au lendemain. Par contre, il y en a du boulot. On parlait tout à l'heure, il faut être branché. Moi, je peux vous dire que dans les organisations, les ONG, il y a des comités de sélection, on se fait vérifier, il y a des lois et tout ça. Être branché dans les ONG et rentrer sans passer par tout le recrutement, c'est très mal vu. Et quand il y en a, à l'interne, c'est pas nécessairement des gens qui vont faire long feu dans l'organisation.
Ouais.
Moi, j'ai beaucoup engagé.
Il n'y a pas des favoritismes.
Non, moi personnellement, j'étais sur des comités et c'est des gens que je n'avais jamais entendu parler ni d'Ève ni d'Adam, mais ils avaient travaillé leur CV, ils avaient travaillé leurs lettres et ça nous a convaincus. Et lorsque tu es en entrevue, là quand tu te rends jusqu'à l'entretien ou jusqu'au test, là c'est toi qui dois te battre. Moi, j'ai vu des gens arriver dans des entrevues écrites sur un poste que eux ils disent que ça fait peut-être même 2 ans qu'ils ont déjà travaillé, ne pas répondre aux questions écrites. Mais si tu réponds pas à la question écrite, bien sûr, là tu es éliminé, c'est terminé. Tu t'es pas battu pour le poste. Ou en entrevue, on va te poser des questions, tu es gêné, tu manques un peu d'assurance, on te pose des questions, je sais pas, il faut se préparer.
Oui.
Et c'est comme un combat de boxe.
Ouais.
On gagne pas un combat de boxe comme ça en se levant un matin en disant moi je vais aller me battre comme ça. Ben non, il faut se préparer, il y a de l'entraînement, c'est la même chose pour la recherche d'emploi.
D'accord, on va donner la parole à Marc Frère par rapport à la question qui a été posée. Non, même jusqu'à partir de là, vous pouvez rester là. Donc,
je veux faire face à la personne qui m'a posé la question, d'où le fait que je me sois levé. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de qu'on recrutait, effectivement, j'ai pas précisé, mais c'est plutôt dans les métiers des opérations, c'est-à-dire... Je crois que j'en ai parlé, par contre, oui, non, j'ai parlé bien de la restauration, des banquets, valets de chambre, équipiers, femmes de chambre, tous ces métiers, stewarding, cuisine, tous ces métiers, on recrute en permanence. On est tout le temps sur des missions de courte durée ou de longue durée, mais c'est... voilà, ça...
Avait postulé pour les ressources humaines et
voilà,
il n'y a jamais eu de
réponse. Mais je vais revenir sur les ressources humaines. D'accord. J'ai pas oublié le cas des ressources humaines. Et j'ai pas oublié aussi la question comme quoi il y aurait de sans contact, on ne va nulle part. Je vais vous expliquer exactement. D'abord, on n'a pas recruté pour assistante de RH. On n'a jamais recruté pour ça. On a recruté, oui, pour le poste de directrice des ressources humaines pour le pays. Ok. Et nous avons, et je peux vous donner je peux vous dire exactement ce qui s'est passé. Il y a eu 41 ou 42 candidatures. Okay. De ces 42 candidatures, on en a épluché ces 42 candidatures, on les a épluchées les unes derrière les autres rigoureusement.
Oui.
Et je vous parlais tout à l'heure d'acquis d'expérience. Et la plupart de ces 42 candidatures, les personnes n'avaient soit pas le profil, soit pas du tout l'expérience, surtout pour un poste de directeur ou directrice des ressources humaines. Donc il faut quand même avoir un minimum d'expérience. On peut pas aspirer parce que j'ai un diplôme, je suis revenu au pays, tiens, j'ai eu mon diplôme à l'étranger, je reviens au pays, j'ai le poste. Non, il faut de l'expérience. Et donc, on a de ces 42 postes, nous avons sélectionné 3 personnes. De ces 3 personnes, nous leur avons demandé de faire des tests. 2 ont fait les tests, 1 a refusé de faire les tests. Et nous avons recruté une personne, qui va commencer dans quelques jours d'ailleurs, une femme, qui congolaise, qui a étudié à l'étranger, qui a travaillé un peu à l'étranger, surtout au Congo. Mais voilà, cette dame, je ne l'ai jamais vue de ma vie. Je ne sais, personne ne me l'a recommandé. Il n'y a eu aucun favoritisme. Et quand vous dites qu'il y aurait ça fonctionne par connexion, etc.
Par branchement.
Je vais pas vous dire que vous avez tort. Vous avez certainement raison parce que ça fonctionne comme ça, effectivement. Mais pas chez nous. Certainement pas chez nous. J'ai compris aussi que dans les ONG, ça fonctionne pas beaucoup comme ça non plus. Et je présume que dans les assurances, ça doit être la même chose. Pas chez nous. On a des critères. On a vraiment des procédures. Et on ne veut pas courir de risques. À se mettre.
Marc Frère, et pourquoi vous n'avez jamais répondu, ne fût-ce que par message, pour dire que bon, la candidature a été reçue, mais.
On répond très souvent quand c'est fait, quand les candidatures sont envoyées par mail, sur la plateforme. Et les 42 candidatures ont été, et nous avons des réponses automatiques. Alors, bien souvent, ces réponses automatiques tombent dans le trash de la personne qui doit recevoir le message. Donc je suis sûr qu'on a répondu aux 42 en disant moi je réponds à chaque fois que j'ai une candidature, je réponds oui, non, je le fais même sur LinkedIn. Donc où que ce soit, je réponds toujours à une personne parce que je considère qu'une personne qui se donne le mal de m'envoyer un CV ou de postuler pour un poste, eh bien je lui dois une réponse. Oui ou non, je lui dois une réponse. Souvent, ça peut éventuellement être ce cas-là, que ce soit tombé dans les messages non voulus, mais voilà. Sinon, on le fait automatiquement.
Automatiquement. Nathaniel.
Je voulais faire du pouce sur ce que Marc vient de dire, et je pense que c'est assez important. Il a dit, vous voyez, ce poste-là, on l'a jamais offert. Et ça, il faut vraiment que vous fassiez attention aux fausses candidatures qui circulent et des gens qui se font passer pour des ONG. Déjà, on l'a mentionné plus tôt dans la table ronde, si on vous demande de l'argent, frais d'ouverture de dossier ou tout ça, c'est de la fraude. Déjà, automatiquement, c'est illégal, il n'y a personne qui fait ça. Et donc, soyez...
Il y a aussi des faux recruteurs, ça, il faut le dire.
Il y a des faux recruteurs. Et il y a des organisations internationales, des ONG qui à chaque année, ont ce problème-là dans différentes provinces. Et ils sont obligés de faire une sortie dans les médias pour expliquer, écoutez, nous, on n'a jamais recruté ici, c'était pas vrai. Et c'est des grands trucs qui se mettent, mais chaque fois, on demande de l'argent. Les gens, ils perdent pas l'argent pour faire ça, pour pas frauder. Ils veulent frauder. Donc déjà, ça, c'est le premier niveau. On vous demande de l'argent, c'est une fraude. Appelez la police, fuyez. Appelez l'organisation pour dire, on est en train de recruter pour toi, on demande de l'argent. Moi, je vais crier. Là, vous m'appelez et on va le faire. Et ça, je trouve ça super important. Sinon, je voulais peut-être juste dire, en effet, je pense que c'est extraordinaire de prendre la peine de répondre à tous les gens qui appliquent. C'est vrai que parfois, dans l'humanitaire, on manque de temps. Et peut-être qu'on le prend pas ce temps-là et peut-être qu'il faut qu'on améliore. Mais lorsqu'on a 10 postes et qu'on va recevoir 10 000 candidats et qu'il faut partir la semaine prochaine parce que les camps sont là et on a besoin, je ne peux pas dire à mes ressources, écrivez à chaque personne. Et c'est pour ça que dans les offres d'emploi, c'est écrit spécifiquement, seulement les gens retenus auront des informations de retour. Oui. Donc ça, regardez aussi, ça peut vous expliquer des fois pourquoi vous n'avez pas. Mais une fois que vous entrez dans le processus, soit par le test écrit ou l'entrevue, là, il y aura un suivi. Là, c'est obligatoire parce que là, il y a une relation qui s'est créée. Merci, je voulais rajouter.
David, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette dame? Elle est découragée, elle a tenté l'expérience. Bon, il n'y a pas d'emploi, elle veut retourner à l'étranger.
On est dans une époque particulière, difficile, pas que en RDC, mondialement, c'est difficile. Moi, je peux vous dire que j'ai beaucoup d'amis en Belgique, ils sont en faillite, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont plus leur patron ont viré la moitié du personnel parce qu'il n'y a plus de demandes. J'ai un ami hier qui me disait, je suis parti de Bruxelles vers Liège, l'autoroute est vide. Parce que les gens ne travaillent plus, parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'on va faire là-bas, confinement, pas confinement, comment. Je pense que c'est difficile partout. Je pense qu'également il y a on parlait de branchement tout à l'heure, je ne crois pas que ce soit propre à ici. On ne va pas se mentir, ça peut marcher dans d'autres pays, ça marche dans le monde entier comme ça. Je connais, mais je sais, enfin, ce que je remarque, moi je suis je m'occupe beaucoup de sociétés qui ont les mêmes pressings que nous. C'est qu'il faut que ça marche, il faut que ça tourne, il faut payer les charges à la fin du mois. Donc je pense que peut-être c'est de moins en moins les branchements, c'est plus à la compétence et il faut bosser, il faut avancer parce que, on n'a pas le temps de, voilà. Chaque élément doit être utile.
Elle doit pas se décourager, elle doit continuer. Non, pas du tout.
Pas du tout. Je sais que c'est très facile à dire. J'ai moi-même, au début, quand j'ai commencé à travailler avant de rentrer dans les assurances, j'ai fait 8 mois au chômage. Voilà, j'étais au chômage. Donc, et je me suis accroché. Et comme vous dites, par moment, j'ai été léthargique. Je n'allais même pas voir le site internet de la société qui m'invitait à venir me présenter. J'adaptais pas la lettre le courrier de motivation. Oui, c'est un boulot à temps plein. Il faut s'accrocher. Et je crois qu'on vit à une époque, et c'est comme ça encore une fois dans le monde entier. Je crois qu'on n'a pas le choix. Il faut se lever, il faut foncer.
Il faut foncer. Est-ce qu'on peut applaudir très 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 fort au Capi Service, émission spéciale en direct de l'Institut français de Kinshasa à l'occasion de la première édition du Salon de l'étudiant. Quels sont les secteurs qui recrutent en RDC et comment construire son employabilité? Nous allons encore recueillir des questions tout à l'heure. Le temps d'accueillir Rémi Kachala. Monsieur Rémi Kachala, il est médecin, chef de staff à l'hôpital. Non, vous pouvez rester hein, là où vous êtes. Il peut intervenir à partir de là où il est. Il n'y a pas de problème. Ah, peut-être pour les images, je ne sais pas si... Ouais, vous pouvez venir. Hein. Comme on est en train de filmer, peut-être qu'il peut être là pour qu'il soit bien vu. Venez, installez-vous. Non, avec... Oui, d'accord. Il y a un autre micro ici. Est-ce qu'on peut applaudir pour Monsieur Rémi qui vient de nous rejoindre sur ce plateau? Monsieur Rémi, bonjour. Voilà, vous êtes médecin-chef de staff à l'hôpital Montcollet. Alors, bienvenue dans cette émission qui parle des secteurs qui recrutent, comment construire son employabilité. Alors, parlez-nous brièvement de votre structure et de votre milieu professionnel.
Alors, Montcollet, c'est une initiative d'une ASBL qu'on appelle SECFOR, qui est un centre de culture, centre congolais de culture, formation et développement. Et alors, Montcollet est l'une des initiatives. À part Montcollet, nous avons un institut supérieur en sciences infirmières. Et ça, c'est dans le secteur médical. Il y a aussi d'autres secteurs en dehors du médical. Alors, Montcollet a ouvert ses portes en 1991. Et moi, j'ai intégré Montcollet à cause de sa vision et sa mission en 2008. J'étais encore jeune, je venais à peine donc de terminer mes études à l'université de Kinshasa. Et là, j'ai échelonné. Aujourd'hui, je suis là comme médecin chef de staff, où je joue quand même un rôle très capital dans la coordination de soins, contact avec les familles, les conventions, les malades, et puis pour donc une prise en charge centrée sur le patient.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a assez d'opportunités d'emploi dans le secteur médical?
Oui.
Particulièrement à Montcollet où vous évoluez.
Oui, effectivement, il y a toujours beaucoup d'opportunités qui s'offrent aux jeunes, surtout, parce que dans sa mission, le centre hospitalier Montcollet a s'appuyant sur SECFOR, cet ASBL. La mission première, c'est la formation. Donc le jeune, même sans expérience, quand ils arrivent, nous les passons donc par des stages, des perfectionnements, des stages professionnels, en s'appuyant sur toujours SECFOR, qui est en fait dans son sein, qui a aussi un autre organe qu'on appelle CEFA, qui est un centre de formation et d'appui sanitaire où nous organisons des formations continues, ainsi que certains ateliers pour pousser, donc essayer un peu d'émerger les compétences cachées de jeunes qui viennent donc intégrer mon collège.
Fidèles auditeurs, nous mettons un terme à cette première partie de l'émission Capi Service. On va suivre les informations et on se retrouve juste après.
Radio Capi vous propose désormais ses magazines thématiques hebdomadaires du lundi au vendredi à 12h30 heure de Kinshasa. Retrouvez Maïcha Bora chaque lundi, droit et citoyenneté mardi, parité et famille mercredi, Écho du développement, jeudi, 100% jeunes, vendredi, à 12h30, heure de Kinshasa. Sachez également que les magazines Étoiles vous est proposé désormais samedi à 19h05 et lundi à 15h30. Identité culturelle, samedi à 8h30 et dimanche à 11h05. Grande interview, samedi à 10h05 et dimanche à 9h05, heure de Kinshasa. Prenez également rendez-vous avec les magazines des Nations Unies tous les dimanches à 8h30 et 19h05, heure de Kinshasa. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Voilà, vous avez suivi quelques préoccupations dans la salle. Il y a une dame qui nous a dit que pour trouver le travail aujourd'hui, il faut avoir des connaissances, des branchements, des cousins, frères et sœurs qui vont vous donner facilement du travail. Quel est votre avis par rapport à cela? Alors,
C'est une réalité. C'est une réalité criante quand même ici aussi en RDC comme partout ailleurs dans le monde. Peut-être un peu plus ici en RDC. Alors nous, pour contourner cela, nous passons essentiellement par des concours. Donc il y a d'abord, en fonction d'un profil, en fonction du besoin, nous lançons des offres et nous passons des concours de recrutement. Après le concours écrit, il y a toujours une interview pour détecter le meilleur. On a eu au mois de mars, quelques temps avant même la Covid, pour deux postes en médecine générale, nous avons passé un concours où nous avons carrément reçu 100 candidats pour ces deux postes-là. Et sur l'ensemble, nous avons pu quand même dénicher des bons médecins, jeunes.
Est-ce que vous avez le temps de passer au peigne fin toutes ces candidatures? On se retrouve devant une pile de candidatures, souvent c'est fastidieux.
Oui, c'est fastidieux, mais bon, on a en fait un organe qui s'en charge pour arriver à répondre.
C'est là. D'accord, on va recueillir d'autres questions.
Merci beaucoup, moi c'est Gracia. Ma question au médecin, je sais pas, médecin directeur.
Médecin chef de staff.
Médecin chef de staff de mon collègue.
Docteur Rémi.
Oui. Il y a plusieurs étudiants qui terminent leurs études aujourd'hui en médecine. Et nous savons que lorsqu'ils terminent, premièrement, ils sont médecins généralistes. Or, dans un hôpital, nous avons besoin de médecins spécialistes. Et qu'est-ce que vous faites, votre hôpital, pour les orienter, afin de leur montrer qu'après avoir fait cette spécialité, vous avez 80% des chances d'être engagé chez nous, ou c'est les profils que nous cherchons, mais que nous n'avons pas ici. Par exemple, si nous prenons en infirmerie, l'infirmerie est vaste, mais lorsque nous partons dans des universités, ils s'arrêtent juste en infirmerie. J'ai rencontré mes amis, comme moi étudiant, qui font l'infirmerie, mais qui ne savent pas certains domaines ou d'autres offres qu'offre l'infirmerie. Quand nous visitons les sites de Campus France, nous voyons, nous avons des infirmeries, des infirmiers en laboratoire, nous avons des infirmiers en bloc opératoire, nous avons des infirmiers femmes accoucheuses. Mais
alors, quelle est la question précise que vous posez
Ma question, c'est proposez-vous des spécialités ou quelle orientation pouvez-vous proposer à ces jeunes étudiants afin qu'une fois terminés leurs études, ils puissent avoir plus de chances d'être employés en RDC?
D'accord, merci. J'ai besoin de quatre bonnes questions avant de clôturer l'émission. Rapidement. Vous pouvez poser la question à tous les intervenants, ils sont là pour vous. Quatre questions avant de terminer. Qui prend la parole? Bien, merci. Micro Tati.
Merci pour la parole, c'est Keren. Ma question s'adresse toujours à Monsieur Nathaniel.
Nathaniel, okay. Voilà. Qui est dans les secteurs de l'humanitaire.
Oui, le secteur de l'humanitaire. Je voulais savoir ceci, parce que vous avez dit que il y a des gens qui arnaquent les gens par rapport à l'employabilité en ce qui concerne les ONG. Maintenant, comment, qu'est-ce que vous préconisez pour, je sais pas moi, éviter ce genre de fraude? Par exemple, si quelqu'un veut poser sa candidature à votre ONG, peut-être qu'il pourrait se rencontrer avec des arnaqueurs au lieu de rencontrer votre site officiel. Comment reconnaître ces sites officiels, si je peux dire comme ça?
Les sites des arnaqueurs?
Non, pour ne pas passer par les arnaqueurs, en fait.
OK, donc, d'accord.
Pour atteindre directement la direction de ressources humaines.
OK, voilà. Micro Tati, de l'autre côté, il y a un monsieur qui veut parler.
Voilà, je m'appelle Dondodier Kamunga. Bon, ma question s'adresse aussi à Monsieur Nathaniel ainsi qu'à d'autres intervenants. Alors, ici, on parle de l'employabilité. On voit beaucoup plus le recrutement où il y a un test, et il y a une offre d'emploi. Mais je voudrais quand même savoir, est-ce que le test reste au fait le seul mécanisme hein, jusque-là pour engager ou employer? Hein, si dans plus précisément aussi dans l'humanitaire, est-ce qu'il s'est déjà arrivé qu'une personne soit engagée sans pour autant passer par les tests? Donc soit une recommandation, soit il a été constaté que la personne est performante dans une autre organisation. Si ça s'est fait et comment ça s'est fait? Et aussi il y a encore un problème comme M. Nathaniel est là, je voudrais quand même aussi signaler ce problème-là. Le problème, c'est l'information aussi. Comme il est du forum des organisations internationales.
L'information ne circule pas là-bas?
Non, l'information sur l'emploi ou sur l'offre est des fois mal gérée. Donc, on les poste pas aussi dans des sites qui peuvent facilement aussi informé sur l'opportunité. Donc, il y a deux fois où on est informé qu'il y avait tel poste là-bas, mais qu'on n'a pas vu au fait où ça a été posté. Voilà, donc c'est un peu ça les éventuels problèmes.
D'accord. Les deux dernières questions, Tati, le micro. Oups.
Bonjour. Bonjour, c'est toujours Gabriel Joy. J'avais la question pour le monsieur de l'ONG.
Monsieur Nathaniel.
Oui.
Ok, il a beaucoup de succès aujourd'hui.
Le problème, c'est que j'ai constaté que c'est comme un cercle vicieux dans les ONG. Vous trouvez qu'il y a une personne qui a travaillé, par exemple, à la Croix-Rouge et quitte la Croix-Rouge pour, disons, Croissant-Rouge, pour l'UNICEF. Donc, c'est juste comme si c'est l'employabilité, c'est juste entre ceux qui sont déjà
dans le système,
ONG. Oui, exactement.
C'est un cercle fermé, on dirait.
Vous qui venez de l'extérieur, c'est très difficile de pénétrer, mais dès que vous êtes à l'intérieur, le boulot, en tout cas, c'est garanti pour la vie, je pense. Mais le problème, c'est qu'il faut entrer. Comment le faire? Comme il a dit tout à l'heure, c'est toujours entre les ONG. Comment éviter ça? Si vous pouvez trouver une façon de gérer ça, parce que c'est pas vraiment... tout le monde cherche de l'emploi, ce n'est pas que ceux qui sont à l'intérieur qui doivent toujours circuler d'emploi à emploi entre vous là-bas, c'est pas... c'est ce que je voulais dire.
D'accord, merci. On prend les deux dernières questions. Il y a madame derrière, Tati.
Bonjour, c'est madame Léa. La question s'adresse au docteur Rémi.
Ok.
Il a dit que mon collègue avait... un institut de technique médicale. Est-ce que les infirmiers que vous recrutez généralement proviennent nécessairement de l'institut technique médicale de Montcollet? Et si vous recrutez aussi les infirmiers qui viennent de l'extérieur, et comment vous faites pour les infirmiers? Est-ce que les infirmiers aussi passent par un test comme pour les médecins aussi?
Merci. D'accord, merci. Donc, il n'y a plus de questions. Bien, on commence à Docteur Rémi. Kachala, vous avez la parole.
Alors, la première question s'agissait de médecins généralistes qui finissent et comment nous faisons pour les orienter en spécialisation, c'est ça? Alors, bon, je pense que le recrutement, l'orientation est fonction de besoins. De besoins de l'employeur, de besoins qu'on a sur place, localement, dans un pays. Ça va? Alors, la problématique avec la médecine générale dans notre pays, parce que c'est en fait un domaine qui n'est pas formalisé. C'est-à-dire que le médecin généraliste, c'est celui qui quitte l'université et qui s'élance dans la nature, avec toutes les difficultés possibles, parce que là, on a beaucoup qui finissent. Et de plus en plus, on a du mal de concilier en fait la main d'œuvre présente et le besoin au niveau des hôpitaux. Et soit c'est parce qu'il y a un grand nombre, soit le besoin ne se sente pas. Mais en réalité, dans notre pays, c'est le profil du médecin généraliste dont on a besoin. Parce que vous ne trouverez jamais un spécialiste aller à l'intérieur du pays. Mais un généraliste bien formé, si on avait en fait cette spécialité, parce que dans d'autres pays, on a ces spécialités-là où le médecin est formé en médecine générale avec des normes pour pouvoir faire face aux réalités du terrain. Alors, de plus en plus, il y a une tendance anglo-saxonne où on forme, on hyper spécialise ces médecins généralistes en médecine des familles, en leur accordant en fait une façon de faire des choses autres que les médecins généralistes qui est formé directement de l'UNIKIN ou bien de nos universités pour l'emploi. Et ces médecins-là, des familles, ont en fait une façon de soigner qu'on appelle une prise en charge globale, holistique, biopsychosociale. Et c'est un profil aussi. Alors, bon, pour notre cas, à mon collègue, comment nous orientons ces médecins généralistes qui arrivent? C'est en fonction des besoins que nous sentons. Je vous avais dit que nous passons soit par des stages de perfectionnement et par ces stages-là, nous parvenons à détecter les potentialités, les compétences. Et c'est en sur base de cela et en tenant compte de nos besoins que nous pouvons donc orienter vers la spécialisation. On a de cela qu'on a renvoyé aux cliniques universitaires pour la spécialisation dans tel ou autre tel domaine selon nos besoins. Et il y a même de ceux-là qui sont allés en fait pour des stages en Europe et qui reviennent pour appuyer l'hôpital.
Alors docteur, comment les jeunes qui aspirent à travailler par exemple chez vous peuvent faire pour construire leur employabilité et maximiser les chances d'être recrutés?
Alors, nous avons ce qu'on appelle, je crois, l'organe CEFA, qui est en fait un centre de formation. Des formations continues. Et les contacts avec ces centres, c'est déjà une opportunité d'être en contact avec le centre hospitalier Moncolet. Et la plupart de ceux-là qui ne sont pas passés par le test sont passés par des formations dans ces centres-là. Et alors quand on leur propose d'abord un stage clinique, et on sait détecter, et ils peuvent court-circuiter effectivement les tests des offres qui s'ouvrent à l'extérieur.
D'accord, merci. Nathaniel.
Je parlais plus fort que... Voilà, le micro était fermé. Donc c'est une obligation légale d'afficher les postes. Soit les ONGI vont l'afficher sur leur page web à eux directement. Là, vous pouvez pas vous tromper parce que c'est directement leur page web. Ou ils vont passer par des sites. Et c'est des sites en général assez clairs. Radio Capi le fait à l'occasion pour certaines organisations, mais je pense qu'il y a trop de demandes pour ce que vous arrivez à traiter. Ouais. Et donc, vous en faites quelques-uns. Tonjob.net, Media Congo, ce sont des sites où vous allez les avoir, ces offres-là. Nous, bien sûr, à chaque fois que des gens essaient de frauder une ONGI en faisant des faux recrutements, c'est un danger pour l'ONGI et sa réputation. Donc nous, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter que ça arrive. Mais à vous de vérifier les sources. Si vous recevez un mail de incognito@345.com, ben déjà, vous savez que c'est faux. Vous effacez directement. Récemment, j'ai reçu un mail qui disait « Ah, il y a la loterie pour devenir citoyen du Canada en cours et tout ça ». Le Canada fait pas de loterie.
Donc déjà tu fais, mais les gens qui le savent pas, ils vont là, ils payent les
là,
dossiers,
c'est
tout ça.
Ça circule dans les réseaux sociaux.
Oui, et même l'ambassade, moi j'ai envoyé à l'ambassade, l'ambassade a fait des annonces, mais il y a des fraudeurs partout. Ça c'est compliqué. Vérifier les sources, c'est votre meilleure façon. En général, la majorité des ONG, en tout cas, ils vont même afficher sur les portes du portail de leurs organisations. Donc une des choses que vous pouvez faire, c'est même aller voir là-bas et aller voir si c'est affiché. Et une fois que vous êtes là, en général, vous pouvez demander à rencontrer même la personne qui est là. Ça peut être le liaison officer, ça peut être la personne qui est là. Et dire, est-ce qu'il y a des emplois en ce moment qui sont affichés? Déjà, on va pouvoir vous répondre. Donc ça, c'est une autre façon que vous pouvez y aller. Il y a des obligations légales des ONGI, nos règlements d'ordre intérieur dans lesquels il y a entre autres toute la question du recrutement doivent être visés par l'inspection du travail, si je ne dis pas de bêtises. Pas nous inventer des nouvelles procédures. Il faut respecter ces procédures-là. Et donc, on ne peut pas être engagé pour un nouveau poste au sein d'une ONGI sans passer par un processus de recrutement. Il peut y avoir un processus écourté, si c'est dans les ROI, par exemple, pas de test écrit, seulement l'entrevue, parce que il faut vraiment y aller, mais il y a un processus de recrutement obligatoire. Certaines organisations dans le ROI peuvent... ROI?
C'est quoi ROI?
C'est les règlements d'ordre intérieur.
D'accord.
Pardon. Peuvent, par exemple, eux avoir des nominations à l'interne. Si c'est visé par l'inspection du travail, vous pouvez le faire. Mais encore une fois, ça doit être visé par l'inspection du travail.
Alors, il y a eu une deuxième question. Vous évoluez en cercle fermé. Il est difficile d'entrer dans le secteur des ONG quand quelqu'un quitte la Croix-Rouge, il se retrouve à l'UNICEF ailleurs. C'est entre vous et vous n'acceptez pas les autres candidatures.
Je pense que c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est une perception et je pense que cette perception-là, elle est vraie dans certaines situations et elle est fausse dans d'autres. Et je reviens encore une fois sur vos propres attentes et vos propres volontés. Si vous voulez du jour au lendemain devenir directeur RH d'une ONGI et que vous avez jamais eu d'expérience, il faut arrêter. Ça va pas se passer. C'est impossible. Il faut commencer plus bas. Il faut commencer dans les échelons. Pourquoi? Parce que les ONGI, même moi, mes obligations légales à la DGM ne sont pas les mêmes que les entreprises qui sont autour de moi. C'est tout à fait différent pour les humanitaires. Et donc, si vous connaissez pas ça, là, on va tous être arrêtés et déportés. Et là, il y aura un problème. Et vous comprenez, il faut accepter qu'il faut commencer quelque part et que c'est pas parce que j'ai un baccalauréat ou que j'ai baccalauréat, c'est chez moi, c'est le diplôme d'université.
Oui.
Ici, c'est autre chose. Ou un master et tout ça. Il faut aussi accepter, il faut commencer quelque part et avoir l'humilité. Donc ça, c'est la première chose. Donc, quelqu'un qui arrive et que je demande 5 ans d'expérience parce que c'est un poste de senior management, bien sûr, si vous avez aucune expérience, vous pourrez pas l'avoir.
Est-ce qu'il y a des opportunités, des stages,
bien
par
sûr,
exemple, dans les secteurs humanitaires?
Oui, les stages, oui, mais encore une fois, c'est quelques postes. Ça va pas satisfaire tout le monde.
Oui.
Et ça, en général, c'est ouvert et vous pouvez aller voir les ONGI. Ceux qui sont propres de ce que vous voulez faire, il y a la santé, il y a l'éducation, il y a tout ça. Vous vous rapprochez, ils les annoncent aussi. Il y a des programmes, en ce moment, il y a des programmes aussi spécifiques pour essayer d'atteindre la parité genre. Et donc, il y a beaucoup d'opportunités de stage pour les femmes en ce moment, justement pour les former à l'interne et faire avancer.
D'accord.
Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup plus d'hommes en ce moment que de femmes dans le secteur humanitaire. On est loin de la parité. Par contre, je peux dire aussi que c'est un piège. Moi, si je recrute et je vois quelqu'un qui, en 10 ans, a fait 10 organisations, ben je suis pas sûr que j'ai envie de le recruter comme ça. Pourquoi en 10 ans il a changé? Moi, je pense que ça va pas très bien. Et donc, c'est aussi à l'inverse, ça peut être un danger.
Oui.
Et donc, il faut vraiment être capable de bien le défendre dans votre CV, dans votre lettre, pourquoi vous avez fait autant d'organisations en autant d'années.
Bien, Marc Frère, il y a une question qui a été adressée à tous les panélistes. Est-ce qu'il faut toujours passer par un test de recrutement pour être engagé quelque part ou bien il peut y avoir aussi des recommandations?
Des tests de recrutement, ils sont nécessaires pour certains types de postes, mais pas pour tous les postes. Surtout nous, dans l'hôtellerie, par exemple, pour les services à table, services banquets, femmes de chambre, valets de chambre. Vous savez, non, on fait pas passer des tests. Par contre, on analyse le profil de la personne. La personne vient chez nous, on la remarque dans son travail, et puis sa continuité parmi nous va dépendre de son profil. Est-ce qu'il a envie de travailler ou il se dit... qu'est-ce que va m'offrir la société, ou plutôt il se pose la question, qu'est-ce que moi je vais pouvoir offrir à la société? C'est ça qui fait toute la différence, en fait. C'est le profil de la personne.
Voilà, c'est ça qui fait la différence. Bien, on va terminer cette émission au Capi Service à l'occasion du premier salon de l'étudiant qu'organise Campus France. On va donner la parole à Laurane Clément, chargée des missions, études supérieures à l'ambassade de France. On va conclure avec Laurane. Alors, on a parlé des secteurs qui recrutent en RDC, comment construire son employabilité. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les jeunes congolais qui nous écoutent en ce moment?
Eh bien, déjà, lancez-vous. J'espère que ce salon étudiant, cette émission, vous aura prouvé que vous aussi, vous avez votre place sur le marché de l'emploi congolais. Et qui plus est, parce que vous êtes congolais, parce que vous avez cette expertise que des personnes n'auraient pas en venant de l'extérieur. Donc vraiment, ne vous découragez pas. Profitez, parce que c'est un droit fondamental, hein, ça fait partie des droits de chaque être humain d'avoir une mobilité internationale. Et pour les perspectives, donc c'est le premier salon étudiant, on espère bien que ça ne sera pas le dernier, avec de nouveaux interlocuteurs, de nouvelles personnes. Et à partir du 1er novembre de cette année, donc vous pourrez commencer votre campagne Campus France et faire vos inscriptions auprès des établissements d'enseignement supérieur pour, je l'espère, un jour peut-être intégrer une des équipes des personnes qui ont été présentes. Merci beaucoup.
Merci Laurane, merci à tous les intervenants, merci à vous chers participants, merci d'applaudir très 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 fort au Capi Service, émission spéciale en direct de l'Institut français de Kinshasa. On a parlé de secteurs qui recrutent en RDC, nous disons merci à toute l'équipe de production, merci à Bob Landou qui a assuré la technique, Tati Mapoukou à la réalisation, micro Jody Daniel Kachama et Jean-Marc a assuré la supervision de cette émission. Et merci à tous les participants et merci à vous qui écoutez cette émission sur la fréquence de la paix, et à la prochaine.